Il est 6 heures.
Il est donc probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde.
Comment la France sortira-t-elle du confinement? Le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué hier un premier calendrier sorti en plusieurs étapes, pas pour tout de suite et à une date différente selon les régions. Pour accompagner ce déconfinement, il faudra une bonne politique de tests. Plusieurs dizaines sont actuellement sur le marché en France et à l'étranger, mais aucun pour l'heure n'est vraiment fiable.
Pour des tests rapides qui sont faits en 10 à 15 minutes, ils sont assez corrects, mais ils n'ont pas la fiabilité d'un vrai test dans le laboratoire.
Plus de 500 nouveaux décès en France en 24 heures à l'hôpital. Des établissements, comme si la tension n'était pas assez forte, victimes d'escroqueries à l'achat de matériel à hauteur parfois de plusieurs millions d'euros.
Ils mettent vraiment la pression à leurs interlocuteurs et du coup, ces pharmacies, ces hôpitaux sont amenés à verser de l'argent et ne voient jamais la marchandise arriver.
Dans ce journal, nous irons en Italie, pays le plus mortellement touché, plus de 13 000 morts et la crainte d'une crise sociale en plus de la crise sanitaire. Votre invité à 6h40, Mathieu.
Le médiateur des entreprises pour répondre à vos questions. Si vous connaissez en particulier des difficultés de paiement, des délais de paiement non respectés, je vous attends au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le signal que nous sommes bien sûr très nombreux à attendre alors que nous vivons une troisième semaine, pratiquement tous isolés à la maison. Quand ce confinement va-t-il finir? Pas tout de suite, il est imposé pour l'heure jusqu'au 15 avril, mais Édouard Philippe a évoqué hier un premier calendrier devant la commission d'information de l'Assemblée nationale.
Le Premier ministre a parlé d'une sortie progressive. Tout le monde ne sortira pas à la même date, ce sera en fonction de l'évolution de la maladie dans chaque région.
Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question du déconfinement en étudiant l'opportunité, la faisabilité d'un déconfinement qui serait régionalisé ou d'un déconfinement qui serait sujet à une politique de test, et si oui laquelle, ou un déconfinement qui serait en fonction, qui sait, de classe d'âge. Bref, nous sommes en train de travailler et d'expertiser des scénarios en fonction des hypothèses. Il est donc probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde.
Le Premier ministre vient de le dire, la sortie passera par une importante politique de tests, notamment ceux via les prises de sang qui diront si nous avons été infectés, donc si nous avons fabriqué des anticorps, problème. Pour l'heure, aucun test, quel qu'il soit, n'est encore au point, Ève Roger.
Il y a déjà une trentaine de tests rapides sur le marché, français ou étrangers, mais pour l'instant, aucun n'a reçu le feu vert des autorités sanitaires. La plupart sont en cours d'évaluation dans les hôpitaux, comme au CHU de Strasbourg, où le professeur Samira Fafi-Kremer teste différentes kits de dépistage.
Tous, ils déclarent qu'ils sont marqués CE, mais ça ne veut rien dire par rapport à la fiabilité du test. On pense que la majorité vient de Chine. Je dirais que sur les trois qu'on a testés, ils sont assez corrects pour des tests rapides qui sont faits en 10 à 15 minutes, mais ils n'ont pas la fiabilité d'un vrai test dans le laboratoire.
Son laboratoire estime que dans 20% des cas, il y a une erreur de diagnostic. C'est beaucoup trop pour garantir une sortie de confinement sans risque, explique Lionel Barrand, président du syndicat des jeunes biologiste.
On sait qu'il y a des personnes à qui on va dire vous êtes positif, c'est bon, vous avez des anticorps et ils vont se croire protégés. Et finalement vont diffuser le virus parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus de risque.
D'ici quelques jours, on attend l'arrivée sur le marché de mastodontes, ces industriels du monde entier qui ont su faire par exemple le test VIH. Ils ont des outils plus fiables, des machines puissantes, de quoi passer ainsi au dépistage massif au moment du déconfinement. Et si ces tests démontrent que plus de 60% des Français ont été infectés par le virus, alors la trajectoire du Covid-19 sera interrompu, la population dans son ensemble sera immunisée.
Ève Roger, je sais que ce sera l'un des, c'est un peu tôt pour vous le dire, mais en même temps on est confiné à la maison, ce sera l'un des grands thèmes de la France Bouge aujourd'hui, cette question des tests. Dites-le nous, hein, vous vous êtes fait dépister, est-ce que vous comptez le faire? Quels sont les tests les plus fiables? On va en parler, vous allez témoigner au 3921 ce matin. L'épidémie progresse en France, 509 nouveaux décès dans les hôpitaux en 24 heures, nouveau record quotidien, la barre des 4000 morts est franchie, 4032 précisément.
Le chiffre ne comprend pas encore les décès dans les EHPAD. Ce comptage-là, difficile, est en cours, mais on dispose de chiffres pour le Grand Est. 570 victimes dans les maisons pour personnes âgées dépendantes de la région, l'une des plus touchées.
Le Grand Est où une lueur d'espoir naît à Mulhouse, premier foyer majeur en France. 3 malades seulement aux urgences hier. C'était 15 ou 20 ces derniers jours.
L'Île-de-France reste l'autre région sous très forte tension. Près de 10 000 malades dans les hôpitaux. Les transferts de patients se poursuivent pour désengorger les services. service. 100 personnes supplémentaires doivent être transférées par hélicoptère vers le centre Val de Loire, la Normandie et les Pays de la Loire.
La solidarité entre soignants s'organise aussi. Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants. Des milliers proposent leur aide via notamment la réserve sanitaire. Ce matin, un témoignage réjouissant dans ce contexte difficile.
Véronique Asselineau Molina est d'ordinaire chirurgien orthopédiste à l'hôpital Bicêtre près de Paris. Plusieurs jours déjà qu'elle endosse la blouse d'aide-soignante dans des services de réanimation.
Depuis quelques jours, je ne suis que très rarement chirurgien. Je suis parfois aide-soignante, comme j'ai été ce matin. Je m'arrivais de prendre des fonctions d'infirmière. C'était une évidence, puisqu'il était hors de question de voir tout le monde s'épuiser et ne pas aider. Or, je ne serai jamais réanimateur, hein, ça c'est pas possible. Et donc, on a cherché comment aider. Il faut vraiment s'habiller en cosmonaute pour rentrer dans la chambre. Et donc, c'est prendre la fréquence cardiaque, la pression artérielle, c'est apporter les repas, c'est si besoin l'aider à la toilette. Nous sommes leur seul lien, donc c'est parler un peu avec le patient. Bah, c'est pas moins prestigieux. Moi, je suis fière de moi, j'ai apporté du soutien aux patients. C'est un peu épuisant, surtout que là, ça doit faire 12 jours que je travaille tous les jours. Mais en même temps, on ne peut pas laisser des gens sans aide. Non, c'est pas possible.
Véronique Asselineau Molina, chirurgienne, et ses derniers jours en renfort dans d'autres fonctions hospitalières.
Et puis, on voulait aussi vous donner ce chiffre ce matin. Oui, on le donne, 10 935 personnes sont sorties guéries des hôpitaux depuis le début de la crise. Le nombre d'admissions en réanimation sur la totalité du territoire se stabilise, a précisé hier Édouard Philippe.
Des hôpitaux qui, en plus de la crise sanitaire, doivent composer avec des tentatives d'escroquerie, de grosses escroqueries. Plusieurs millions d'euros ont été frauduleusement soutirés à des établissements partout en France, mais aussi à des EHPAD et des pharmacies.
Vous nous racontez cette escroquerie, Guillaume Bié. Les malfaiteurs jouent sur une crainte des établissements, le manque de matériel.
Oui, ce sont des escrocs redoutables au discours bien rodé qui se font passer au téléphone pour un fournisseur habituel en masque ou en gel hydroalcoolique et qui réussissent à engranger de grosses commandes, raconte Anne-Sophie Coulbois, la chef de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
Ils prennent l'identité d'un fournisseur habituel, ils contactent ces établissements et leur disent « Je viens d'avoir un stock de masques, je sais que vous en avez besoin, dépêchez-vous, mon stock fond à vue d'œil, donc voilà, je vous envoie directement une facture pro forma, vous trouverez mes coordonnées bancaires dessus, faites-moi un virement. » Et donc en fait, voilà, ils mettent vraiment la pression à leurs interlocuteurs. Et du coup, ces pharmacies, ces hôpitaux sont amenés à verser de l'argent et ne voient jamais la marchandise arriver.
Même si c'est un fournisseur habituel, une entreprise qu'on connaît déjà, il faut quand même se méfier et rappeler, c'est le conseil.
Ah oui, c'est indispensable. Il faut vraiment rappeler ou recontacter avec les coordonnées qu'on a déjà.
En clair, vérifier et ne pas se précipiter pour éviter de grosses pertes, des dizaines de milliers d'euros pour plusieurs sociétés médicales ou encore cette firme pharmaceutique près de Rouen qui a perdu 6,5 millions d'euros.
6,5 millions d'euros de pertes. Les informations pour Europe 1 de Guillaume Bié. Sur le plan économique, le chômage partiel ne cesse d'augmenter. 337 000 entreprises ont effectué des demandes. 3 600 000 salariés concernés, a dévoilé hier la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Soit un salarié du privé sur cinq. Qui sont ces salariés? Et surtout, jusqu'où cette envolée du chômage partiel peut-elle se poursuivre? Les réponses d'Olivier Samin.
Les premiers ont été les salariés des restaurants, des cinémas, des salles de spectacle et de l'ensemble des magasins non alimentaires, tous contraints de fermer à la mi-mars. 2 millions de salariés. Très vite sont venus s'ajouter les salariés d'un certain nombre d'entreprises autorisées à poursuivre leur activité, mais qui ont dû faire face au choc d'une économie subitement ralentie, avec l'effet domino du fournisseur qui ne peut plus vous livrer, ce qui vous empêche vous-même d'honorer les commandes de vos clients et vous conduit à votre tour à réduire la voilure. Là, on commence à trouver des entreprises plus grosses, du tertiaire, mais aussi de l'industrie, du bâtiment. 3 600 000 salariés aujourd'hui, tout le monde le sait, ça ne va pas s'arrêter là. Les économistes de l'OFCE estiment qu'au bout d'un mois de confinement, 5 700 000 salariés au total devraient basculer en chômage partiel. Si ça ne va pas plus loin, la reprise pourrait ne pas être trop douloureuse. La mesure aura atteint son but, pas ou peu de licenciements. Mais si la mise à l'arrêt de l'économie se prolonge, alors là, dit l'OFCE, le chômage, le vrai, pas le partiel, repartira à la hausse.
Et notez que l'enseigne de chaussures André, plus que centenaire, est la première grande marque à sombrer, placée en redressement judiciaire, 600 emplois concernés. Plus de deux semaines que nous vivons tous confinés, toute la journée à la maison, pour la plupart d'entre nous, un confinement qui nécessite pour certaines familles encore plus de force et de courage. Aujourd'hui, 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Nous voulions ce matin donner la parole à ces familles, ces parents, qui doivent gérer le quotidien auprès d'un enfant autiste.
Bonjour Daniel Langlois.
Bonjour.
Vous êtes présidente d'Autisme France. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous demandez, on va être très concret, un droit de sortie élargi pour les personnes autistes. Les personnes autistes ont plus besoin de sortir que les autres.
Pour certaines, oui, pas pour toutes. Il y en a qui se satisfont d'une certaine manière d'être confinés et de ne pas avoir l'obligation d'interaction sociale. Mais pour beaucoup, c'est absolument dramatique, en particulier pour les personnes qui ont des troubles sévères, des difficultés de comportement, et qui ont impérativement besoin de sortir 2 fois par jour, et puis d'aller un peu loin, enfin, de pouvoir faire une marche digne de ce nom, ou de faire du vélo. Alors en Espagne, cette possibilité a été acquise réglementairement. C'est-à-dire les personnes autistes, en particulier celles qui ont des difficultés de comportement, peuvent sortir beaucoup plus largement que ça n'est le cas en France.
Parce qu'il faut bien comprendre, et ce n'est pas un reproche, quelque part la question du confinement n'a pas été réfléchie sous ce prisme-là, mais les repères sont bousculés, les routines désorganisées, et c'est une épreuve pour nombre d'enfants autistes.
Voilà,
pas qu'enfants d'ailleurs, pardonnez-moi, pas que les enfants.
Oui, les enfants, les adultes, c'est exactement le même problème. Stabiliser une personne autiste, c'est pouvoir stabiliser son environnement, structurer son espace, structurer le temps, lui donner un outil de communication, lui apprendre à maîtriser son environnement social. Et tout cela a volé en éclats ou est remis à la charge des parents, puisque les externats sont fermés, les écoles sont fermées. Le soutien éducatif qui pouvait être fait aussi beaucoup par des professionnels en libéral n'est plus possible. Les AESH qui accompagnaient les enfants à l'école, elles n'y sont plus. Elles n'ont pas le droit d'intervenir à domicile. Et de toute manière, vu l'absence de protection, il n'y a pas grand monde qui a envie de venir intervenir à domicile.
Les AESH, ce sont les aides, les assistants que vous pouvez avoir dans le cadre scolaire
ou AVS
dans le temps, oui, effectivement. Et simplement, vous le soulignez, c'est important. Parlons aussi des parents. Ils sont en solo, en télétravail parfois, livrés à eux-mêmes, c'est important de le souligner aussi. Hein.
Oui, il y a beaucoup de familles monoparentales dans le handicap en règle générale, mais encore plus dans l'autisme. Donc souvent, ce sont des femmes seules qui parfois sont en télétravail, elles aussi, et donc qui se heurtent à cette difficulté supplémentaire d'assumer la charge d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte autiste sans aide, alors que par elles-mêmes, elles doivent assurer le quotidien.
Et je dis à nos auditeurs de prendre de quoi noter, je donne un numéro de téléphone à la fin de cette phrase. Comment vivre le confinement avec un enfant autiste? Tout un guide mis en ligne sur le Facebook de l'association Autisme France que vous présidez. Merci beaucoup Daniel Langlois. Il y a aussi donc ce numéro de téléphone Autisme Info Service, non surtaxé je le précise, joignable au 0800 71 40 40. Daniel Langlois, merci beaucoup.
Merci.
C'est aux États-Unis que le Covid-19 progresse le plus vite. Plus de 200 000 cas recensés, plus de 5 000 morts. On vient de l'apprendre, on a également appris cette nuit la terrible nouvelle, le décès d'un nouveau-né de 6 semaines dans l'état du Connecticut.
En Europe, l'Italie reste le pays le plus mortellement touché, plus de 13 000 morts. Le nombre des nouvelles infections continue toutefois de ralentir. En plus de la crise sanitaire, les autorités redoutent une crise sociale, évidemment. Et l'épidémie provoque une urgence alimentaire, particulièrement dans le sud du pays.
Pour Europe 1, Blandine Hugonnet a pu contacter plusieurs habitants du Sud inquiets.
On va avoir de l'argent de l'État dans la semaine, mais ça arrive trop tard.
Angelo est un Sicilien, père de 3 enfants. Il attend avec impatience les 300 euros promis pour chaque famille par le gouvernement pour les produits de première nécessité. Car comme de nombreux Italiens du Sud, région les plus pauvres du pays, ce vendeur de glace a dû fermer boutique il y a un mois à cause du confinement. Sans travail, impossible de payer les provisions. Il faut compter sur la solidarité.
C'est une personne très généreuse qui nous a payé les courses aujourd'hui. Avec ça, on va pouvoir tenir quelques jours au moins.
Au total, 400 millions d'euros ont été débloqués par l'Italie pour l'urgence alimentaire, mais pas sûr que cela évite l'explosion de la poudrière du Sud. En Sicile, plusieurs familles ont pris d'assaut un supermarché et tenté de partir sans payer. Des tensions avec les forces de l'ordre ont éclaté à Naples, en Calabre, dans les Pouilles, des régions méridionales où ce sont près de 3 millions d'Italiens qui travaillent au noir Ils n'auront donc droit à aucune aide de l'État. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
C'est une tradition à Pâques, aux alentours de la période de Pâques. Il est de coutume de manger parfois de l'agneau. La période est le temps fort pour les éleveurs. Des ventes doublées par rapport au reste de l'année, mais avec les mesures de confinement, la filière souffre.
Et nous voulions vous parler ce matin de cette initiative à grande échelle des producteurs de Pyrénées-Atlantiques. 700 d'entre eux lancent aujourd'hui un drive. Oui, vous commandez votre viande et puis vous passez la retirer dans des points de vente, Théo Manval.
Comme tous ses collègues éleveurs de brebis, Stéphane Chétrit était coincé depuis 2 semaines. Plus de restaurants ni de magasins pour écouler ses agneaux de lait. À 1 semaine de Pâques, le président de l'Alliance ovine Basco-Béarnaise se lance donc avec 700 confrères dans ce gigantesque drive.
Et effectivement, c'est un pari. On a mis une grande machine en marche sans en connaître le résultat. Mais quand il y a le besoin qui se crée, il faut savoir trouver les portes de sortie. Et on s'est dit, il y a 480 000 habitants sur le département, on a 40 000 agneaux à vendre. Eh bien, feu.
Le dispositif, un site en ligne pour vos commandes de caissettes de 6,5 kg d'agneaux, gigots, épaules et carrés de côte et des points de vente pour les récupérer en voiture dans toutes les Pyrénées-Atlantiques.
On est autour des 45 points de vente sur le département, ce qui fait un maillage de 15 km de distance entre 2 points. Des gares, des stades, des parkings de petits commerces. On ne dort pas beaucoup, mais ça commence à faire écho et puis on y croit.
Et en effet, les commandes ont commencé depuis ce week-end. Laurie est chargée de répondre au téléphone.
On doit tourner là autour de 400 précommandes pour l'instant. C'est conséquent, oui, ça démarre bien. Donc, espérons.
Et sur les 91 euros de chaque caissette, 1 euro sera reversé en solidarité pour les hôpitaux.
Et puis, Roger Federer se dit dévasté. Le tournoi de tennis de Wimbledon est annulé cette année. Il était prévu à Londres fin juin, début juillet. Il n'est même pas reporté, carrément annulé. Les organisateurs avaient souscrit une rare et très onéreuse assurance pandémie, ce qui va leur permettre de minimiser les pertes. À noter en France, le critérium cycliste du Dauphiné est reporté. Toutes les courses sont suspendues pour l'heure jusqu'à début juin. La menace se rapproche, Mathieu, du Tour de France. Départ prévu le 27 juin de Nice.
Oui, puisque vous parliez de sport, je vous conseille cette petite vidéo postée par Novak Djokovic dans son salon. Alors, on pourra questionner ses goûts en matière de décoration. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais on le voit jouer au tennis dans son salon. Il ne s'arrête jamais, décidément. Merci, Jérôme Lacroix. Tennis ou pas tennis, Djokovic, vous êtes dans son salon avec lui pour échanger quelques balles. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix. Tiens, à 6h30, Mulhouse, on vient de l'évoquer. Un des points de départ de l'épidémie et cette lueur des espoir ce matin, la ville qui a le plus souffert, la première ville confinée aussi. 3 malades seulement, si j'ose dire. 3 malades seulement aux urgences hier, c'était 15 ou 20 ces derniers jours. On en parle à 6h30 dans le journal de François Geffrier, 6h17.
Europe 1.
Comment vous sentez-vous confiné? Certains ressentent le besoin d'être utiles. On les a entendus d'ailleurs au 39-21. Et c'est le cas de Bakary Meïté, joueur de rugby de l'US Carcassonne en Pro D2, qui s'est engagé dans l'hôpital. Vous allez l'entendre dans un instant, mon invité inattendu.
Europe 1, Philippe Vandel.
Tout à l'heure dans Culture Média, la journaliste Arlette Chabot, dont l'émission de débat sur LCI est passée de 1 à 3 heures, ça c'est du confinement, et la romancière Tatiana de Ronay, qui sort son nouveau livre, Les Fleurs de l'Ombre, mais également en audio, vous entendrez ça.
Europe 1, Culture Média.
Alors, à tout à l'heure, 9h30 sur Europe 1. Europe 1.
La matinale d'Europe 1.
Mathieu Béliard.
Vous écoutez Europe 1, vous avez fait le bon choix, il est 6h18, l'heure de l'invité inattendu, tous les matins. Un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Ce matin, nous sommes en ligne avec le rugbyman Bakary Meïté. Bonjour Bakary Meïté.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous jouez, vous êtes troisième ligne à l'US Carcassonne en Pro D2. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. Et vous êtes un de ces Français qui s'est engagé dans cette lutte internationale contre le coronavirus. Pendant le confinement, vous êtes agent d'entretien à l'hôpital à Paris, c'est bien cela ?
C'est ça.
Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette décision ? Surtout, comment est-ce qu'elle s'est concrétisée ?
Ça a été une opportunité un peu inattendue. Un membre de la belle famille de ma sœur qui travaille dans une société, qui est chef de site dans une société de nettoyage, sous-traitée par l'hôpital Sainte-Périne dans le 16e arrondissement. Et il appelle ma sœur pour lui demander si elle ne connaissait pas quelqu'un qui aurait envie de travailler parce qu'il se retrouve en sous-effectif, etc. Et là, il y a mon neveu, donc le fils de ma sœur, qui se propose spontanément d'y aller. Et moi, j'étais dans la pièce d'à côté et j'entends ça. Et puis, je me propose aussi.
Génial.
Au départ, par solidarité pour mon neveu.
Comment est-ce qu'il s'appelle, votre neveu ?
Il s'appelle Zacharia.
Zacharia, il a quel âge ? Parce qu'il faut lui rendre hommage aussi.
Ah oui, clairement. Il a 20 ans. Il était apprenti rugbyman à Carcassonne aussi, il joue en espoir. Donc si vous voulez, c'est un peu lui rendre l'appareil parce que il a voulu faire comme moi en voulant être joueur de rugby. Et aujourd'hui, c'est moi qui veux faire comme lui en faisant preuve de solidarité.
Zacharia, oui, il faut le saluer ce matin. 554 lits et places dans cet hôpital parisien qui est spécialisé dans les pathologies liées au grand âge. Bakary Meïté, vous devez voir des choses en ce moment que vous n'êtes pas forcément habitué à voir.
Ça, c'est clair. C'est clair que en passant dans les couloirs et en nettoyant, en désinfectant les poignées de portes de chambre, je fais face à des patients qui sont parfois mal en point, qui sont en fin de vie. Et je vois aussi autour de moi des gens qui sont dévoués, des gens qui sont extraordinaires, qui s'occupent de ces patients. Et clairement, c'est ce que je disais, c'est que si... au lieu de devoir désinfecter des poignées de fenêtres, de portes ou de rampes, le personnel soignant est auprès de ses patients, ben, c'est top.
Oui, c'est pour le mieux, effectivement. Ça change de l'entraînement, Bakary Meïté, vous le prenez très à cœur, je l'entends. C'est pas un people qui donne un coup de main, là. Hein. Vous êtes au planning 7h-13h tous les jours.
C'est ça.
Vous auriez pu faire plus simple, hein, diffuser des vidéos de chez vous, peut-être, je sais pas, faire des plaquages dans le salon avec votre neveu. Non, c'était pas assez. Vous tourniez en rond, il fallait être utile.
Oui, c'est une opportunité qui s'est présentée. J'aurais pu effectivement rester chez moi, rester confiné et faire comme la majorité des Français. Mais l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie sans trop réfléchir en fait, sans même savoir dans quel hôpital j'allais, dans quel service, etc. Et quand ça s'est présenté, ben, on y a été et le lendemain on commençait.
Vous êtes donc agent d'entretien, c'est un côté peu gratifiant et vraiment je mets des guillemets là-dessus, et pourtant ce job il est extrêmement nécessaire en ce moment, en particulier, en général il l'est. Ça a l'air simple comme ça, vous avez été formé, que vous inspirent vos nouveaux collègues?
C'est justement pour ça que j'accepte de répondre à des sollicitations médiatiques, ça me permet de faire parler de ces gens-là, parce que moi je suis là, je suis de passage, je vais faire ça le temps que ça durera, le temps dont on aura besoin de moi, mais il y a des gens qui sont là depuis des années, des Français qui se lèvent tous les matins, qui sont en contact de patients malades, dans un contexte que l'on connaît tous, et certains d'entre eux n'ont pas refusé. Si moi je suis là aussi, c'est parce que bah, il y en a qui ont peur, il y a des gens qui refusent d'y aller, il y a des gens qui, et ça se comprend, qui sont pas sereins dans ce climat, mais il y en a d'autres qui continuent de le faire, et ces gens m'inspirent beaucoup. J'ai rencontré des gens formidables. C'est des Français qui sont pour l'extrême majorité d'origine étrangère et qui sont là depuis des années, qui se lèvent les matins, qui font pas de bruit, dont on parle pas souvent. Donc aujourd'hui, je suis content qu'on mette un peu de lumière sur eux.
Vous êtes en contact avec votre équipe, je veux dire avec les joueurs de l'US Carcassonne. Ils font quoi? Ils sont confinés?
Oui, on a un contact. Ben, vous savez, on a tous des groupes WhatsApp. En ce moment, on discute beaucoup de l'avenir de ce championnat qui s'est arrêté brutalement, de savoir quand est-ce que ça va reprendre, etc. Donc on est en contact permanent. On a un programme physique à respecter qui nous a été envoyé par le club. Donc oui, les joueurs sont confinés.
Et vous respectez ce programme physique tout en travaillant en ce moment?
Ouais, ça fait des grosses journées.
Ça va vous changer quand même, Bakary Meïté. Hein. Franchement, le retour au quotidien, vous arrivez à l'imaginer normal?
Je pense, oui. Comme je vous dis, je suis de passage. Je j'ai pas la sensation de faire quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai fait, ça se passe bien. Si demain ça doit s'arrêter, il y a d'autres personnes continueront à ma place et puis moi je retournerai à l'entraînement et parce que je continuerai à faire ce que j'aime. Là, ce que je fais, je me sens un petit peu plus utile. Maintenant, le rugby, c'est quelque chose que j'adore. C'est du spectacle, c'est du sport, ça transmet des émotions aux gens. Donc ça aussi, c'est quelque chose de sympa.
Ça va, vous, Bakary Meïté?
Si ça va?
Ouais.
Ah oui, moi, je suis au top.
Bah, merci. Non, mais merci beaucoup de ce témoignage, parce qu'en plus, à travers vous, on met en lumière, vous l'avez bien dit, ces agents d'entretien dont on n'a pas forcément beaucoup parlé et qui sont essentiels, d'ailleurs, au fonctionnement du système hospitalier. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je sais que dans 36 minutes maintenant, vous prenez votre service d'agent d'entretien donc dans cet hôpital parisien, Bakary Meïté, avant que l'on vous retrouve à l'US Carcassonne en Pro D2. Le rugbyman Bakary Meïté, mon invité inattendu ce matin. Merci beaucoup. Il est 6h24.
matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et vous restez bien sur Europe 1 avec nous, confortablement installés. Je ne sais pas dans quelle pièce de chez vous vous êtes en ce moment. Quoique certains sont un peu stressés, il faut bien le souligner, un peu tendus en ce moment. Et comment ne pas les comprendre, notamment des chefs d'entreprise de TPE-PME. Je le rappelle, à 6h40, nous appelons le médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet. On va parler en particulier des délais de paiement. Vous avez du mal à payer dans les délais ou alors vous avez du mal à vous faire payer. Ce petit détail peut mettre la vie, la survie d'une entreprise en jeu. Je vous attends vos questions, vos témoignages au 3921. Mais pour l'heure, on a rendez-vous en Haute-Loire. Elle est confinée dans sa ferme. En même temps, c'était la première télétravailleuse de l'équipe. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu.
Fanny, nous saluons un certain nombre de professions en ces temps difficiles. On vient de le faire avec les agents d'entretien de l'hôpital. Mais il y a une profession qui n'est pas honorée non plus. Vous voulez nous parler des apiculteurs?
Surveiller les ruchers qui sortent de leur hivernage, remplacer les colonies qui se sont affaiblies durant les frimas, changer la reine, déplacer les ruches sur les champs de culture. Les apiculteurs sont sur le pont et doivent conserver leur mobilité et continuer à s'occuper de leurs ruches. Pourquoi c'est important, Mathieu ? Eh bien parce que le printemps a commencé, tout est en train de fleurir et de bourgeonner dans la nature et c'est le moment clé de l'année où les abeilles doivent être au taquet.
Parce qu'il s'il n'y a pas de pollinisation, il faut bien le comprendre, il n'y a pas de production fruitière et maraîchère.
Clairement, les abeilles permettent la reproduction des plantes et des fruits à hauteur de 30% de notre tonnage d'aliments. Elles sont donc essentielles à notre nourriture et l'intervention des apiculteurs est cruciale si on veut pouvoir maintenir notre production alimentaire car les abeilles sauvages à elles seules ne sont pas en mesure de faire tout le boulot dans les champs de culture.
Les apiculteurs qui redoutent aussi, Fanny, de souffrir de la situation actuelle pour vendre leur miel.
Oui, essentiellement les petits producteurs qui vendent leur miel de printemps sur les marchés à ce jour encore fermés. L'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture Française, lance d'ailleurs un appel à tous les amateurs de miel en alertant sur cette rupture liée au confinement qui a déjà des conséquences majeures et inédites en termes de survie des ruchers, non pas comme ces dernières décennies suite à une perte de cheptel, mais pour la première fois dans l'histoire de l'apiculture au niveau de l'impossibilité de vendre le miel. Il est donc nécessaire dans ce contexte et afin de soutenir la filière apicole, de modifier un petit peu nos habitudes alimentaires en privilégiant les circuits courts et en se rapprochant de chaque apiculteur pour connaître quels sont ses modes de livraison et de vente mis en place. Durant cette période de confinement, soutenons et disons aussi merci, merci à nos apiculteurs.
Merci aux apiculteurs effectivement pour qu'on ait encore du miel, que ce soit en rayon sans jeu de mots ou sur les marchés qui restent ouverts. Merci Fanny Agostini. Notre rendez-vous à la ferme, on apprend des choses au contact de la nature tous les matins avec vous. Merci beaucoup, 6h27. L'Eurovision et cette musique que l'on reconnaît immédiatement aux premières notes. Vous le savez, l'édition 2020 de l'Eurovision est annulée. Impossible à maintenir, bien sûr. Des fans européens qui circulent, qui se massent pour applaudir, des musiciens qui eux aussi viennent de partout. Impossible. Cette fois, c'est sûr, on ne gagnera pas. Sûr aussi, on ne va pas perdre en 2020 non plus. Ce que vous entendez, c'est le morceau qui devait nous représenter, Tom Leb pour la France, The Best in Me. Les organisateurs de l'Eurovision ont décidé d'offrir un cadeau aux confinés, une soirée spéciale, une émission musicale, un show de 2 heures qui ne sera pas une compétition mais dans lequel nous pourrons découvrir ou redécouvrir les artistes qui devaient concourir. On promet des cadeaux, des surprises, des reprises. Alors en attendant ce matin, je vous propose ceux qui étaient annoncés comme favoris cette année. Pardonnez ma prononciation, c'est de l'islandais, Daoui Freyr. Eurovision ou pas, que ça ne vous empêche pas d'hocher de la tête à la maison, mes chers confinés à l'écoute d'Europe 1. Le 16 mai, 21h, cette soirée spéciale Eurovision, c'était la date prévue pour la compétition. Et ce que vous entendez, c'était donc ceux qui étaient annoncés comme favoris, les candidats islandais. 6h29, Laurent Cabrol est en train de danser. Arrêtez de danser, concentrez-vous sur vos cartes, Laurent.
Lui, il est bon. Dans notre garage, vous voyez que je danse, d'accord.
Je devine, je vous imaginais hocher de la tête. Comment résister? C'est très dansant ce morceau. Oh, non, non, non. on écoutera encore un peu.
J'adore Toblet.
Le candidat français.
Ah oui, j'ai une faiblesse pour lui. Bon, enfin bref. Moins 5 en Sologne, mes amis. Aïe, 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 il y a de quoi danser pour se réchauffer. Moins 3 degrés à Vichy et Nevers. Strasbourg, Clermont-Ferrand, moins 1, moins 2. 1 à Caen, 2 à Bourges et Rennes et Lille. 3 à Nantes, 4 à Paris et Lyon, 5 à Vannes. 6 degrés à Toulouse, 7 à Marseille et 9 à Bordeaux. Je vous donne ces températures actuelles, qui sont les températures bien sûr prises sous abri. Il y a un petit peu de vent, pas trop, beaucoup moins que ces jours derniers. Dans la journée, nous aurons des valeurs qui seront beaucoup plus sympathiques, 13 à 17 degrés. Bon, ben enfin, tout ça, vous savez bien, chers confinés, que nous allons pouvoir en profiter que du bout des doigts ou du bout du nez. Mais enfin, bon, je n'ai rien à dire en ce qui concerne la couleur du ciel. Ce sera encore du grand bleu et du grand soleil. On va s'en mettre plein les mirettes.
Ben on prend.
Ah, on prend quand même. Ben, c'est vrai que, je pense, on regrette d'être confiné dans ces cas-là. Et puis, quand il y a 3 gouttes de pluie, il y en aura sur les régions de l'extrême sud, au pied des Pyrénées. Mais enfin, là, ça concerne vraiment une toute petite partie du territoire.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol, pour la météo. L'heure de retrouver François Geffrier. Bonjour, François.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
François Geffrier, confiné chez lui, qui attend le soleil par la fenêtre. Mais avant le soleil, il est 6h30. C'est l'heure du journal.
C'est un des premiers patients qu'on avait transféré en Allemagne il y a 10 jours et qui est revenu 8 jours plus tard. Alors fatigué, mais guéri.
C'est encourageant, même s'il ne faut pas crier victoire trop vite. L'hôpital de Mulhouse, submergé ces dernières semaines par les malades du Covid-19, enregistre une petite baisse du nombre de nouveaux patients. Pour les entreprises, en revanche, les ennuis ne font que commencer. L'économie plonge et même les aides promises sont parfois un vrai casse-tête administratif. Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme en plein confinement. Nous entendrons la maman d'un adolescent qui vit difficilement le bousculement de ses habitudes. Et puis, des nouvelles des marins de l'Abeille Bourbon, un remorqueur capable de passer 45 jours en mer, il ne rentre plus au port en ce moment. Votre invité dans 10 minutes, Mathieu.
Il va répondre à nos auditeurs, patrons de TPE, PME, qui ont du mal à se faire payer. Et c'est vital pour les petites entreprises. Le médiateur national des entreprises au ministère de l'économie, Pierre Pellouzet, en direct sur Europe 1 dans 10 minutes. Vos appels au 39-21. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si le Grand Est, la première région française touchée de façon massive par le coronavirus, pouvait espérer un début de mieux? C'est ce que l'on veut croire du côté de Mulhouse. Cet hôpital saturé qui a vu l'armée installer des tentes sur son parking. Il y a eu ses hélicoptères et ses TGV utilisés pour évacuer des dizaines de patients vers d'autres régions.
Cet hôpital, donc, a publié un communiqué hier donnant de vrais signes encourageants que nous détaille pour Europe 1, Arthur Mbaché.
Ça donne le sourire, c'est bon pour le moral. Deux phrases prononcées par le chef des urgences de Mulhouse hier après-midi, inimaginable il y a encore quelques jours. On a peur d'être déçu, dit-il prudemment, alors on ne parle pas de pic. Peut-être que ce n'est qu'un faux rebond entre deux vagues. Il n'empêche, frisson, lueur d'espoir hier matin. 1, 2, 3. Les soignants comptent. 3 malades aux urgences. Ces derniers jours, c'était 15 ou 20. Il faut aussi parler du centre 15, dont l'activité n'a pas été aussi faible depuis 30 jours à Mulhouse. Christophe Lannelong, le patron de l'ARS Grand Est, pense aussi, lui, au retour déjà des patients évacués loin d'ici ces derniers temps.
C'est un des premiers patients qu'on avait transféré en Allemagne il y a 10 jours et qui est revenu 8 jours plus tard. Alors fatigué, mais guéri. Je pense que c'est très important qu'on porte à la connaissance de la population et pas seulement dans le Grand Est, ces témoignages, parce qu'au fond, il montre la lueur au bout du tunnel.
Le bout du tunnel, quand ça se calmera aussi en réanimation, il va falloir être patient. À Mulhouse, la réa est pleine, toujours et encore.
Arthur Mbaché, notre correspondant dans le Grand Est, le bout du tunnel, il n'arrivera sans doute pas au même moment partout. C'est ce qu'a évoqué hier Édouard Philippe, auditionné par les députés sur la gestion de l'épidémie.
Le Premier ministre ne donne pour l'instant que des hypothèses, parlant d'une sortie de confinement régionalisée ou soumise à des tests ou encore par classe d'âge.
Le chiffre grimpe chaque jour. On en est à 337 000 entreprises qui font des demandes de chômage partiel à cause de l'épidémie et du tassement de l'activité économique. 3 600 000 salariés sont concernés.
Et malgré cette aide assez massive, où l'État s'occupe de verser 84% de la rémunération nette des salariés, ça n'est pas si simple quand on est une petite société. Maud Descamps, pour Europe 1, a pu interroger des chefs d'entreprise en pleine paperasse.
Ça prend beaucoup plus de temps pour gérer les choses. J'ai vraiment basculé mon temps là sur vraiment la gestion de trésorerie. Ce matin, j'y ai passé presque 3 heures.
Ces tâches administratives, d'habitude, Anne, dirigeante de plusieurs PME spécialisées dans le secteur de la pêche, n'y consacre pas plus de 20 minutes par jour. Désormais, il lui faut l'aide de conseillers professionnels pour s'en sortir.
Il faut être vraiment entouré, donc que ce soit au niveau de l'expertise comptable ou des personnes qui savent gérer l'URSSAF et tout, parce que on ne sait pas trop comment ça se passe. C'est vrai qu'il y a une gestion de trésorerie à faire.
Gérer la trésorerie, c'est aussi le principal souci d'Olivier, patron de 5 restaurants à Paris. Tous sont fermés. S'il salue la rapidité avec laquelle les mesures d'aide aux petites entreprises ont été annoncées, il dénonce néanmoins le comportement des banques qui, elles, ne jouent pas le jeu.
Les banques demandent beaucoup de papiers que les comptables débordés déjà ne peuvent pas nous donner. Les banques ne réagissent pas toutes positivement. Il y en a même qui disent qu'elles ne souhaitent pas prendre de risques. Ça reste une situation invraisemblable.
Une fois ces aides obtenues, ce patron de 80 salariés se lancera dans d'autres démarches, celles pour préparer la reprise de son activité.
Hier soir, les magasins de chaussures André ont été placés en redressement judiciaire. L'enseigne a perdu 4 millions d'euros en 2 semaines. 600 salariés sont menacés alors que toutes les boutiques sont fermées à cause des restrictions sanitaires.
La question de la paperasse que l'on vient d'évoquer avec Maud Descamps, il y avait un autre mot-clé, la trésorerie. Parce que certains se font de la trésorerie sur le dos des petits artisans, des TPE, des PME et profitent un petit peu de la loi sur les délais de paiement. Ils se permettent de payer en retard, tardivement. En tout cas, on en parle avec le médiateur national des entreprises. Dans quelques toutes petites minutes, votre témoignage, c'est maintenant au 39-21. Il y a ces jours-ci 4 fois plus d'appels que d'habitude vers la plateforme Autisme Info Service. Il faut dire que le quotidien des familles dont un enfant est atteint d'autisme est souvent déjà difficile en temps normal. Le confinement les met dans une situation très délicate.
Les éducateurs spécialisés ne peuvent pas forcément se déplacer pour les aider. Les centres médico-éducatifs sont fermés et surtout, le changement des habitudes des personnes autistes peut être source de stress. Nous voulions ce matin vous faire entendre le témoignage de Sophie, une maman de 4 enfants dont Zéphir, 16 ans, atteint d'autisme.
Au début, je me suis vraiment dit, ça va être l'enfer. Chaque jour, on se dit une case de cocher sur le calendrier et on a tenu bon. Mais c'est vrai qu'avec un enfant autiste, l'imprévisibilité est ce qui fait le plus peur. Donc Zéphir, habituellement, a des routines établies depuis des années. Et quand il y a une rupture de la routine, il est très facilement déstabilisé. Donc on est sur le qui-vive, on essaye de l'entourer, de lui expliquer les choses.
Et alors depuis le début du confinement, est-ce que vous avez réussi à mettre en place une nouvelle routine ?
Je redécouvre un peu certaines choses que je pensais ne plus pouvoir faire, comme lui demander de rester 1 heure à son bureau. Ça faisait des années qu'on ne l'avait pas fait. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle du confinement. Par ailleurs, il a un besoin immense de se défouler. Il fait habituellement entre 6 et 10 km par jour en extérieur. On gère comme ça, en lui expliquant qu'il a le droit de sortir avec son papa, courir 1 heure. Et on a la chance d'être 2 parents. C'est des moments particuliers, mais qui sont précieux aussi, parce que on découvre un peu une nouvelle manière de pouvoir fonctionner avec lui. Et finalement, ça peut aussi donner lieu à des bonnes surprises.
Sophie, une maman qui répondait à Jeanne Bergaoui pour Europe 1. Alors que le coronavirus a atteint les territoires d'outre-mer français, la Guadeloupe et la Martinique ont désormais un couvre-feu.
Interdiction de sortir de 20h à 5h du matin, sauf pour des trajets domicile-travail et des urgences médicales. Bien sûr, Guadeloupe et Martinique comptent plus de 250 cas de Covid-19 et 9 morts.
Parmi les Français dont le métier est indispensable en ce moment, les marins de l'Abeille Bourbon. C'est un remorqueur capable de venir en aide à tout navire en un délai très rapide. Et pour éviter une contamination de son équipage, les 12 membres n'ont plus remis pied à terre depuis déjà 2 semaines. Le bateau est dans la rade de Brest.
Décision du commandant Thierry Choquet. Un choix que salue Jean-Paul Elquin, président de l'association du remorquage et ancien marin sur l'Abeille Bourbon pendant 27 ans.
Il veut que son bateau reste opérationnel parce qu'il sait qu'il est aux avant-postes s'il y a un navire qui est en difficulté au large de la Bretagne. Mais le commandant, il a pris une décision, en fait, de ne pas exposer son équipage, parce que depuis le 19 mars, ces marins n'ont eu de contact avec aucune personne. L'Abeille Bourbon est armée 24 heures sur 24. Ça veut dire que ces navires sont complètement autonomes. Vous avez des vivres pour 40 ou 45 jours. Les 12 personnes qui sont à bord de ce navire sont des marins qui sont capables de vivre dans des conditions qui, pour eux, ne sont pas des conditions dramatiques. Hein. S'ils sont appelés pour aller faire un sauvetage, ils ramèneront le navire sur rade et puis ils repartiront au mouillage. C'est plutôt rassurant pour les Bretons, pour les marins qui passent au large, mais c'est également très rassurant pour les autorités militaires, parce qu'ils savent qu'à bord de ce navire, il n'y aura aucun problème.
Jean-Paul Elquin, joint par Charles Guyard pour Europe 1.
Merci beaucoup François Geffrier. Il est 6h38, c'était le journal de 6h30. À 7h, on va retrouver tout à l'heure Hélène Zélani avec les premières auditions de la mission d'information parlementaire sur le coronavirus. Restez bien à l'écoute, il est 6h38. Je vous attends au 39-21 pour parler de la vie des entreprises.
Mathieu Béliard.
l'avis de votre entreprise. Pardon, je suis en direct avec Pierre Pellouzet, médiateur national des entreprises. Bonjour Pierre Pellouzet.
Bonjour Mathieu Béliard.
Et merci mille fois d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Nous nous sommes parlé le 28 février dernier, Pierre Pellouzet. Nous n'étions pas encore confinés. Mais déjà, vous appeliez à plus de solidarité entre les entreprises, notamment un respect des délais de paiement.
Oui, absolument. Effectivement, sur votre antenne et sur d'autres, j'ai essayé d'appeler l'attention de ces grandes entreprises, de ces entreprises de taille intermédiaire en leur disant « Vous allez être une des clés de la sortie de crise ou du passage de la crise par les petites entreprises. Si vous payez toutes les factures que vous devez rapidement, tout de suite, à toutes ces petites entreprises, vous allez leur amener la bouffée de trésorerie qui va leur permettre de passer le cap. » Si au contraire, vous freinez ces paiements, vous les ralentissez ou vous attendez tranquillement le délai légal, là, vous ne leur donnez pas cette trésorerie qui est si importante pour passer le cap. Et donc, on va mettre en difficulté encore plus des entreprises qui sont déjà au ralenti ou avec du personnel confiné et qui donc sont affectées par cette crise.
Et il faut être très clair, vous avez utilisé les mots-clés. Il y a un délai légal et quand on va sciemment au bout du délai légal, c'est qu'on se fait de la trésorerie sur le dos de petites boîtes qui sont en difficulté.
Absolument. On trouve plusieurs typologies, j'allais dire, de comportements. D'abord, il faut le souligner, des grandes entreprises qui, peut-être parce qu'elles ont entendu notre appel, se sont mis à payer très rapidement les petites entreprises. Hein, il y a des grands patrons qui ont déclaré sur toutes les ondes qu'ils allaient le faire et on constate qu'ils le font.
Oui, chez nous, notamment, je me souviens de... j'en ai reçu plusieurs. Le patron d'EDF, le patron d'Orange. Tout ça, c'est bien respecté.
Exactement. Il faut les féliciter. Ce sont des pionniers, ce sont des gens qui ont compris ce qu'était la solidarité économique et la mettre en œuvre.
Pierre Pellouzet, du coup, parce que j'en profite, excusez-moi, dans la liste des grands patrons qui sont intervenus sur Europe 1, je reçois le directeur général monde de Sodexo à 7h40.
Bien entendu, je lui lance le même appel. J'espère, Sodexo est une entreprise dont on connaît le côté responsable. J'espère que ce grand patron, sur votre antenne, déclarera, et non seulement déclarera, mais mettra en œuvre. L'important, c'est évidemment la mise en œuvre, que toutes ces équipes soient mobilisées pour payer les petites entreprises tout de suite. C'est maintenant qu'elles ont besoin d'argent.
C'est dit.
Donc ça, c'est vraiment les pionniers et il faut les féliciter. Après, malheureusement, à l'autre bout du spectre, on a vu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des entreprises qui se sont mis à se faire de la trésorerie sur le dos des petites entreprises. J'assimile ça, vous savez, au syndrome du stock de pâtes, hein, comme les gens qui sont allés dévaliser les rayons des supermarchés de crainte de manquer de pâtes dans les jours qui viennent. Certaines grandes entreprises se sont mis à, j'allais dire, dévaliser la trésorerie de leurs petits fournisseurs de crainte d'en manquer dans les jours qui viennent. Et ça, c'est incompréhensible, c'est absolument terrible parce que ça peut avoir un effet cascade qui peut détruire des dizaines et des dizaines de petites entreprises.
Alors Pierre Pellouzet, votre combat, il est particulièrement sur ces délais de paiement et j'ai encore d'autres questions. On va notamment parler de ce comité de crise que vous lancez. Mais oui. Fernando est en ligne avec nous au 3921. Alors on va l'accueillir et l'écouter ensemble, si vous le voulez bien, Pierre Pellouzet.
Bien
il
sûr.
Est chef d'entreprise dans le transport de marchandises. C'est bien cela, Fernando ?
Oui, c'est le transport de marchandises de proximité, c'est-à-dire on est sous-traitant des grands groupeurs, on peut les citer, hein, il y en a pas beaucoup, mais actuellement Géodis, Kuhn et Schenker Joyaux, je suis sous-traitant de ces groupes-là, oui.
Alors justement, en tant que sous-traitant, Fernando, est-ce que ces groupes-là vous payent rubis sur l'ongle, si j'ose dire, est-ce qu'ils vous payent dans les temps?
Alors, jusqu'à présent, oui, ça a été le cas. De ce côté-là, oui. Mais ce mois-ci, c'est-à-dire on est payé à 30 à 45, entre 30 et 40 jours. Donc là, on est payé sur le mois de février. Et donc là, il y a certains qui m'ont déjà payé, mais d'autres qui n'ont pas encore fait le virement. Mais le plus catastrophique, c'est que on a demandé de l'aide à la banque, aux banques, comme hier je vous ai écouté. Très bien, on a fait les dossiers et ainsi de suite, et les banques ne jouent pas le jeu sur le terrain, ne jouent pas du tout le jeu.
Car, sur la trésorerie, c'est quoi ce que vous attendez de la banque ? C'est de l'autorisation de découvert, si je puis me permettre, voilà, Fernando, c'est pas du crédit.
Sur la trésorerie, pour le prêt que le gouvernement il a mis en place pour nous, hier je vous ai écouté avec le gouverneur de la Banque de France, et on a besoin de trésorerie, même si on avait besoin de trésorerie, et ça ne suit pas.
Je reprends. Fernando, mille merci de votre témoignage ce matin en direct sur Europe 1. Pierre Pellouzet, la question, le mot-clé, c'est trésorerie. trésorerie en ce moment. Absolument. C'est ce qui permet justement de vous parliez de ce réflexe de ceux qui ont acheté des kilos de pâtes, et bien finalement c'est ce qui permet de tenir le temps de cette tempête. Alors vous avez lancé un comité de crise sur les délais de paiement du côté de Bercy.
Oui, absolument. Face à la vague, parce que je peux dire qu'on avait vu aussi arriver une vague de saisines de ces petites entreprises, comme ce monsieur qui vient de parler, qui avait du mal à se faire payer, et donc ils ont saisi le médiateur des entreprises que je suis, et on a vu arriver en deux semaines l'équivalent de trois mois de saisine, c'est dire l'importance du phénomène. Du coup, avec le ministre Bruno Le Maire, on a créé un comité de crise, que je copilote avec le médiateur du crédit, qui s'occupe des problèmes bancaires, hein, dont ce monsieur parlait aussi. Dans ce comité de crise, vous avez l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire vous avez le président de l'AFEP, les grandes entreprises, le président du MEDEF, le président de la CPME pour les PME et le président de l'UDP pour les artisans, ainsi que les chambres de commerce et les chambres des métiers. On a voulu que l'ensemble de l'économie se regroupe autour de ce sujet et tout le monde a répondu positivement à l'appel. C'est-à-dire que tous ces grands patrons, petits patrons, moyens patrons ont dit ensemble « L'économie est trop importante pour qu'on joue avec, la trésorerie est trop importante pour qu'on joue avec, donc tous ensemble nous portons ce message de solidarité économique ». Ce qui fait que nous allons avoir des remontées de terrain de toutes les petites entreprises. J'engage tous ceux qui nous écoutent à passer par leur fédération, leurs associations professionnelles, pour remonter les informations qu'ils ont sur les bons payeurs, sur les mauvais payeurs. Et là-dessus, nous allons pouvoir mettre en avant les bons. Encore une fois, c'est important de montrer les pionniers, mais aussi intervenir directement avec les grands patrons, avec les moyens, avec les petits, sur les mauvais payeurs, appeler leur président, leur directeur financier et leur dire que ça n'est pas possible de continuer comme ça.
Pierre Pellouzet, vous êtes, et je le redis, un médiateur, le médiateur des entreprises. Donc vous êtes aussi, d'une certaine manière, un arbitre. Encore une fois, le premier élément, c'est qu'il faut rappeler aux entrepreneurs qui ne le savent pas forcément, qu'ils peuvent vous saisir. Médiateur-des-entreprises.fr. Deuxièmement, je voudrais inverser le phénomène, si vous me le permettez. Je suis patron, je suis artisan. Je suis patron d'une petite PME, d'une TPE. Aujourd'hui, moi, à cause de ces problèmes de trésorerie, j'ai du mal à payer un fournisseur. Je ne suis pas forcément un mauvais élève, la situation est compliquée.
Absolument, et on a aussi bien sûr ces cas-là, et bien sûr sur ces cas-là aussi, merci de le rappeler, vous pouvez me saisir, médiateur-des-entreprises.fr, comme vous l'avez dit. Oui, nous sommes là pour parler à toutes les situations déséquilibrées. Quand il y a un petit d'un côté, un grand de l'autre, le médiateur est là pour vous aider à dialoguer. Évidemment, le but n'est pas que vous vous fâchiez avec votre client ou avec votre fournisseur, mais bien au contraire, que vous puissiez vous parler, vous parler dans un dialogue accompagné, trouver des solutions. Le pire dans une crise, c'est de ne pas se parler. C'est le chacun pour soi, c'est on bloque tout et rien ne se passe. Le mieux dans une crise, c'est de recréer cette solidarité par le dialogue, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde vienne, j'allais dire, autour de la table. En ce moment, c'est plutôt autour du téléphone, mais se parle, se comprenne, s'écoute, et dans toutes les problématiques, il y a une solution pour peu qu'on se mette autour du téléphone et qu'on essaye d'avoir une conversation ouverte entre personnes intelligentes, et ça marche.
Alors
comme
vous
le disiez, on a des centaines et des centaines de saisines, et dans les trois quarts des cas statistiquement, on trouve une solution, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à marcher.
Les délais de paiement représentent une source de financement d'environ 700 milliards d'euros, c'est colossal, d'où cette problématique dont vous vous saisissez. Les retards sont stables en moyenne depuis 4 ans, ce sont des informations que vous nous communiquez, en revanche il ne faudrait pas que ça s'aggrave, et même la stabilité, il faudrait qu'on accélère un petit peu, voilà, pour les petits patrons en ce moment. Pierre Pellouzet, merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos questions, à nos auditeurs. Je sais qu'il y a d'autres appels qui arrivent. Il faut le faire, ça c'est ce que vous faites, et le faire savoir, ça c'est pour nous. Le médiateur national des entreprises existe à Bercy et il faut le saisir si on a des soucis dans ce domaine-là. Merci beaucoup Pierre Pellouzet, à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Et on va suivre cette question-là qui est essentielle, qui est vitale pour nombre de TPE, PME. Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises, en direct sur Europe 1, 6h48.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre la revue de presse internationale. Bollywood, industrie cinéma numéro 1 au monde, il faut s'en rendre compte. Bollywood arrêté pour cause de coronavirus, nous sommes en Inde dans un instant, à tout de suite.
Matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Hélène Kohl est à Berlin pour Europe 1. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu.
À la une en Allemagne.
La mobilisation générale face au virus qui passe ici par un appel aux médecins et infirmiers réfugiés arrivés ces dernières années. Rien que pour Berlin, c'est un réservoir de plus de 2000 personnes, précise Deutschlandfunk. Normalement, explique le Süddeutsche Zeitung, avant de pratiquer, ces soignants ont besoin de faire valider leur diplôme et leur niveau d'allemand. Cette formalité vient d'être suspendue dans plusieurs Länder et c'est en Saxe, là où l'extrême droite fait ses plus hauts scores, que les premiers médecins réfugiés ont été déployés au chevet des malades, comme le docteur Sada, un ORL formé en Syrie. « Je suis extrêmement heureux de faire quelque chose pour l'Allemagne », raconte-t-il à Reuters. La TATS publie la photo d'un jeune infirmier afghan arrivé en 2015. Il se souvient, à l'époque, Merkel a dit « Nous y arriverons ». Aujourd'hui, je veux le dire aux Allemands, face au virus, nous y arriverons également, tous ensemble.
Hélène Cole à Berlin pour Europe 1. Patricia Huon est en Afrique du Sud. Bonjour Patricia.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle chez vous ?
Ce dont on parle en Afrique du Sud, c'est du déploiement de cliniques mobiles pour la lutte contre le Covid-19. 60 camionnettes équipées de matériel de prise d'échantillons seront déployées à travers le pays, explique le site Business Tech. L'objectif, un dépistage massif pour tenter d'arrêter la propagation de l'épidémie, particulièrement dans les lieux comme les townships, où la proximité fait qu'il est difficile de respecter le confinement. Le ministère de la Santé devrait mobiliser 10 000 agents, précise Eyewitness News. Ceux-ci feront du porte-à-porte pour identifier les personnes présentant des symptômes et les contacts de celles qui ont été testées positives. Mais le South African note que pour l'instant, l'Afrique du Sud manque de moyens pour mettre en place son plan. Le Laboratoire national de santé publique ne peut réaliser que 5000 tests par jour.
Patricia Huon et Com Bastin est en Inde pour Europe 1. Bonjour Com.
Bonjour Mathieu.
À la une chez vous.
De Bollywood et ses 2000 films par an qui ont attrapé le coronavirus. Suite au décret du confinement de l'Inde pour 3 semaines, le site The Print estime les pertes de la deuxième industrie cinématographique mondiale à 20 millions d'euros minimum. Les cinémas sont fermés, les tournages annulés, mais surtout, le quotidien Telegraph India le souligne, les centaines de milliers de petites mains du grand écran se retrouvent en congé sans solde. Face à cette situation, la star indienne, Salman Khan, a annoncé soutenir financièrement 25 000 d'entre eux. Bollywood est à l'arrêt, mais ses icônes continuent de rythmer la vie indienne. Sur Twitter, le Premier ministre Narendra Modi a remercié les célébrités qui ont contribué à son fonds contre le coronavirus. En attendant, rapporte India Today, la télé rediffuse des séries des années 80 sur les grandes batailles de la mythologie hindoue.
Com Bastin, notre correspondant en Inde. Et ce matin sur Europe 1, la revue de presse internationale avec l'Inde, l'Afrique du Sud et l'Allemagne. Laissez-moi simplement vous parler d'une question essentielle et qui vous a animé ces derniers jours, évidemment, la question des EHPAD. On va en reparler, question extrêmement préoccupante. La situation dans les EHPAD, les personnes âgées, dépendantes, comment les personnels de ces établissements s'organisent face au virus? Comment les résidents vivent-ils la situation? Je vous attends au 39-21. Sachez-le, nous avons lu et je voudrais saluer son travail, tout de même, une consoeur, le travail de Florence Obna dans Le Monde daté d'hier. Elle a été confinée une semaine dans un EHPAD de Bagnolet en Seine-Saint-Denis, c'est une commune limitrophe de Paris. Eh bien, nous serons avec Laurent Garcia de cet EHPAD, les 4 saisons à Bagnolet, entre 9h et 9h30, pour revenir sur ce travail de notre consoeur du Monde, et puis ensuite poser les questions que ça impose. Les inquiétudes que vous avez peut-être en tant que proche d'une personne en EHPAD, peut-être même que vous nous écoutez en EHPAD. Je vous attends ce matin, 3921, le hashtag Radio Ouverte. On est là, on est à vos côtés, on est à votre service sur une matinale en télétravail. Il manque plus que vous ce matin au 3921. À tout de suite.
Europe 1.
Mathieu Noël, la météo et les infos, c'est à suivre. Bon réveil.
Artisans, commerçants, professionnels libéraux, ce message vous concerne.
Je suis chef d'une entreprise de proximité et avec la crise du coronavirus, je suis vraiment inquiet pour mon activité.
Vous rencontrez tous des difficultés. Des aides existent pour protéger votre entreprise. Utilisez sans attendre toutes les mesures négociées, comme le report des impôts et des charges sociales, le chômage partiel, le soutien à la trésorerie ou l'aide de solidarité. Retrouvez l'ensemble des aides sur le site udp-france.fr. UDP, indépendant et solidaire.
Audible, raconte-moi une histoire.
Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande
pour
partie
grandir,
de l'ouest.
Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière
il
de
marcha
voir
dans la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers mots.
Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle.
Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert.
matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
6h54 sur Europe 1, comme tous les matins, nous retrouvons Mathieu Noël en direct de chez lui. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu, Europe 1, radio ouverte et ouverte toute la journée, puisqu'effectivement je vous attends à 16h. Pas de trêve pour les journalistes de la rédac en compétition chaque après-midi dans l'équipée sauvage. Confinement ou pas, ils sont sur le pont. Parmi eux, vous le savez, les grandes voix de cette station, les plus éminents experts, à l'instar par exemple d'Axel de Tarlet, notre expert économique, réputé pour sa vista exceptionnelle, puisque je vous rappelle que c'est lui qui déclarait le 28 février dernier.
Et elles sont excellentes, les conséquences économiques du coronavirus.
Hier, mis devant ses responsabilités, alors que je lui demandais si quand même il s'était pas un peu planté dans son analyse, il me répondait...
C'est-à-dire que, si vous voulez, voilà.
C'est ça, l'équipée sauvage, Mathieu. Un peu d'expertise, beaucoup de mauvaise foi, et aussi, également, un invité qui, à défaut d'être en studio, est désormais avec nous par téléphone cet après-midi. C'est Alain Souchon qui donnera des nouvelles de son confinement. Alors, je sais, je vous ai déjà annoncé Alain Souchon l'autre jour, mais bon, l'autre jour, il y avait eu un micmac, hein, comme disait Popeye.
Je t'expliquerai.
Cette fois, il y a vraiment Alain Souchon, à tout à l'heure.
Alors j'écouterai à 16h, mais c'est pour vérifier. Pour vérifier, oui, seulement que vous n'avez pas dit de bêtises. Mathieu Noël.
Que j'ai pas mitonné.
L'équipe est sauvage de 16h à 18h. Merci beaucoup Mathieu. 6h56, est-ce qu'on a le temps? Oui, je voudrais qu'on ait le temps d'accueillir Aude en direct avec nous. Bonjour Aude.
Bonjour Mathieu.
Bon, on va vous embaucher finalement, puisqu'hier à la même heure vous étiez sur l'antenne d'Europe 1. Non, simplement, on vous a permis de poser une question et d'exposer votre cas au gouverneur de la Banque de France sur Europe 1. Vous êtes garagiste, vous avez deux garages, deux employés, et au-delà d'un million de chiffre d'affaires, vous ne pouviez pas bénéficier d'aide et pas vous payer. Donc, vous avez parlé au gouverneur de la Banque de France. Nous, on nous a dit, parfois c'est un peu frustrant pour le journaliste, vous savez, je prends les coordonnées, on va voir ce qu'on peut faire. Et du coup, je me suis dit, on va rappeler Aude pour voir ce qui a été fait.
Alors, le gouverneur de la Banque de France a pris mon numéro de téléphone et a fait appeler en fait la direction régionale de la Banque de France. Donc j'ai eu un monsieur au téléphone très sympathique qui m'a donné 30 minutes de son temps. Et en fait, eh ben, il va m'aider.
Et donc il y a des dispositifs pour vous ou pas, du coup, au-delà du million d'euros de chiffre d'affaires?
Oui.
Bon, oui. Bah, c'est une bonne nouvelle.
Sur le plan personnel que sur le plan pro, et tout m'a été expliqué en long, en large et en travers, et ce monsieur va me donner un coup de main. Donc c'est super. Merci.
Bon, c'est une bonne nouvelle. Aude, non, mais voilà, c'est moi je voulais juste m'en assurer, parce que parfois c'est frustrant le côté promis, on va suivre, et je voudrais quand même que ce soit une réalité, parce que on accélère le tempo, si j'ose dire. À vos côtés, c'est une bonne chose que d'être en télétravail, bien sûr, et de permettre cette matinale, mais ensuite j'ai envie que ça suive pour Aude, garagiste. Merci beaucoup Aude.
Merci à vous.
Merci beaucoup de nous avoir appelés à l'origine, et je suis ravi qu'on se sorte de cette situation. Est-ce qu'on a le temps pour un peu de musique?
Is this a fever? Is this just allergies?
Les fans de Queen vont tendre l'oreille ce matin. Il faut croire que le coronavirus vous inspire derrière vos claviers. Tout le monde s'occupe comme il peut, comme ces internautes qui ont transformé Bohemian Rhapsody pour en faire Coronavirus Rhapsody. Est-ce une fièvre? Est-ce juste une allergie? Ils ont changé toutes les paroles. Et dans les paroles, vous retrouvez les questions que l'on se pose sur le Covid, autour de la pandémie. Les gestes barrières sont là dans le texte, bien sûr. Plus de 5 millions de vues en 10 jours seulement, et des paroles que l'auteur reconnaît avoir mis 10 minutes à écrire. Et toujours pour les fans de Queen, tiens, une autre chanson. La compagnie Musidrama, le chef d'orchestre Samuel Séné, a réuni virtuellement 135 musiciens confinés chez eux. À distance, ils enregistrent chacun leur partie. Ils ont repris The Show Must Go On, prouesse technique, musicale, résultat épatant, payant là aussi énorme succès sur YouTube. On écoute. Cinq musiciens tous chez eux. Allez voir ça. The show must go on. Il est 6h59.